Philippe Solers, on va maintenant écouter un court extrait de Così fan tutte par Cecilia Bartoli. Così fan tutte, bah tiens, on l'écoute et on en parle après. Così fan tutte de Mozart, interprété ici par Cecilia Bartoli. Philippe Solers, vous qui adorez Mozart, vous qui avez écrit un livre sur Mozart, vous qui avez rencontré maintes fois Cecilia Bartoli, qui a d'ailleurs qui avait publié aussi cet entretien avec cette grande chanteuse, et qui est écrivain, est-ce que Mozart, avec son Così fan tutte, il n'a pas réalisé finalement le rêve de Flaubert, c'est-à-dire d'écrire sur pratiquement rien, parce que dans Così, l'intrigue est extrêmement mince.
Mais c'est justement ça qui est intéressant. Parce que, oh là, vous venez de, nous sommes très loin de Madame Bovary.
Oui.
Nous avons quelque chose de très, très, très étonnant. Moi, j'adore Così, je trouve que c'est le plus grand opéra qu'on ait jamais écrit au monde. Parce que c'est le changement des rôles, c'est la façon de démasquer, avec un raffinement incroyable, les pseudo-sentiments, vous comprenez, les sentiments amoureux, c'est une sorte d'expérience, hein, de la...
C'est des masques aussi, vous qui êtes un amour de Venise.
C'est absolument prodigieux, Così. Écoutez, quand vous pensez que Mozart écrit ça, si je me souviens bien, pendant la fin de l'année 1790, qu'il est dans les pires ennuis d'argent, parce qu'il a des dettes de jeu probablement, qu'il est en train de mendier de l'argent un peu partout, hein. Sa femme va pas très bien, il vient de, les enfants meurent, bon. Et songez qu'il écrit ça très rapidement, comme toute l'œuvre de Mozart à la fin. C'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre en 5 ans, c'est extraordinaire. Oui. Et donc, le fait que, par exemple, il invite un de ses créditeurs, un frère maçonnique, bon d'accord, mais enfin, qu'il l'invite le matin chez lui pour écouter les répétitions de Così, c'est gentil. Il dit, il y aura là Monsieur Haydn, l'amitié entre Haydn et Mozart, qui est une des choses les plus sublimes.
Oui.
C'est du monde, c'est-à-dire Debussy. Vous savez comment Mozart appelait Haydn, papa. Donc, la passion de la musique arrivait à ce point de liberté. Et qu'est-ce que dit Bartoli à propos de Così ou de Mozart en général, en quoi elle est très, 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 très fine? c'est que seul Mozart a pu exprimer tous les sentiments féminins les plus divers, et ça c'est très vrai, ça n'est pas les femmes ne sont pas dans ce rôle de la femme, ça va être terrible après avec les Valkyries etc. de Wagner, tout est nuancé, tout est complexe, tout peut changer d'un moment à l'autre, il y a tout ce qu'il faut, il y a la furieuse, il y a la jalousie, il y a la tendresse, il y a le reproche, il y a l'endiablement, voilà, ça c'est Mozart, c'est-à-dire la substance féminine comprise dans toutes ses ramifications. Moi, je trouve que c'est une très grande preuve de liberté.
Et Dieu sait si vous aimez les femmes et la liberté, Philippe Solers.
Viva les femmes, si. Viva le bon de vie, non, si. Sostenego, l'humanità. Elle en a bien besoin, l'humanità. Si les femmes étaient toujours comme ça, mais ça a beaucoup changé.
C'est comme tout. Alors on va se quitter pour le... En tout cas, il y a Béatrice Mouedine, elle ne change pas, on va la retrouver pour le flash d'information.
Il est 18h-19h30, Passion Classique, avec Olivier Bellamy.
Philippe Solers, je reviens là à votre livre Discours parfait. On a l'impression que vous êtes entré en résistance. Est-ce que nous sommes un peu envahis par le néant? Et en plus, on a l'impression que les repères un peu se perdent, les repères idéologiques, les repères religieux. Est-ce que la littérature, ou est-ce que l'art en général, peut être un chemin, une lumière vers laquelle on peut aller pour essayer de comprendre ce monde qui nous entoure?
Oui, je crois. La chose qui me préoccupe, c'est de constater à quel point l'ignorance s'accroît, à quel point le fait même neurologique de savoir lire et retenir ce qu'on a lu devient problématique.
Mais c'est la faute à qui? Quand on est déjà, on disait c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, c'est la faute à qui?
C'est la faute à personne. C'est pas une faute. C'est un état de la civilisation aujourd'hui. Il y a eu des époques extraordinairement néfastes. Les époques riches, productives, sont finalement assez rares. Il faudrait vraiment étudier l'histoire de ce point de vue. Bon, pourquoi j'ai pris Discours parfait? Parce que c'est un peu provocant, puis il y a aussi un côté humoristique, mais aussi un côté sérieux dans ce titre. Pourquoi? Parce qu'on l'a découvert en 1945. Il y a des gens qui avaient enterré des manuscrits. Voilà. C'est la bibliothèque de Nag Hammadi. Vous savez, en Égypte, il y a eu quelques découvertes après la guerre, la Seconde Guerre mondiale est effroyable. Il y a eu les manuscrits de la mer Morte, Qumran, ça, et puis les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi. Voilà des gens qui, au IVe siècle, se sont dit, oulala, plus tard ou jamais, voilà, ils ont fermé ça, et ils ont enterré. Alors, ça peut durer très longtemps. L'ignorance, enfin vous savez, ça a duré un certain temps, du quatrième au dixième, et puis tout à coup, il y a eu une renaissance. C'est ce que je dis, c'est-à-dire, au fond, il faut conserver, le moment est venu, urgent, de conserver quelque chose, parce que un jour ou l'autre, ça va revenir, renaître. Et au fond, quand j'étais lycéen, on va emmener, encore une fois, 12 ans des expériences cruciales. On va emmener voir le château de Montesquieu et la tour de Montaigne. Je suis rentré là et j'ai vu qu'un type s'était réfugié dans cette tour. On s'est gorgé sous ses fenêtres et qu'il avait écrit sur les poutres du grec, du latin. Et j'étais là, je regardais ça, vous voyez. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il avait comme impression? Mais qu'il y avait une mutation considérable, une métamorphose. Il est allé à Rome pour voir si au moins le pape conservait la bibliothèque, enfin si on pouvait y trouver encore du latin et du grec. Il était contre les innovations calviniennes, Montaigne, vous savez. Prenez les essais de Montaigne, enfin, moi je reminais ça au lycée, avec les professeurs qui à l'époque étaient encore excellents. Et donc on lisait ça avec dévotion, vous comprenez, comme quelque chose qui... Montaigne, on en parle encore, mais enfin, la capacité de lecture et de mémorisation de la lecture, je vous assure, je sais de quoi je parle, devient de plus en plus faible. Voilà.
Eh bien, concentrez-vous, parce que maintenant, c'est Glenn Gould dans du Jean-Sébastien Bach.
Oui. Voilà.
Glenn Gould, le génial canadien, dans un extrait des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. Ça aussi, c'est une nourriture pour l'esprit.
Mais vous voyez, je parlais de gens qui tout à coup sentent que quelque chose ne va pas et se replient, se concentrent. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils s'isolent. Au contraire, ils touchent le futur, comme ça. Et Gould, alors, en est un exemple majeur. Il ne fait plus de concerts. Il se concentre sur l'enregistrement parce qu'il peut modifier éventuellement au dixième de seconde. Il y a un dialogue, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un dialogue avec Yehudi Menuhin. Ils viennent de jouer tous les deux une sonate de Brahms, visiblement sans enthousiasme de la part de Gould. Et donc, il n'aime que Bach ou Haydn. Les derniers enregistrements de Haydn sont absolument prodigieux. Bon, alors Yehudi Menuhin lui dit, mais enfin, le concert, c'est ça. Et l'autre lui répond, mais non, cher ami, le concert, ça m'intéresse plus. C'est très 19e siècle. Le concert, c'est faire de l'effet devant des gens qui toussent de temps en temps lorsqu'on... Voilà. Non. Le nouveau, enfin, la terre promise. À ce moment-là, on voit que Menuhin n'est pas content parce qu'il aime bien jouer, lui, en public. Enfin, se donner en spectacle, comme le grand musicien qu'il était. Bon, avec quand même beaucoup de pauses. Hein. Gould, c'est autre chose. Vous savez que c'est le menton au bord des touches. C'est quand on l'a filmé, c'est une espèce extraordinaire de voir ça. Bon, l'indépendance des deux mains, je passe, Bach était fait pour lui, et Bach a pensé probablement, lui aussi, qu'un jour, il y aurait quelqu'un qui saurait faire ça, à ce point de concentration. Alors, l'enregistrement, c'est comme, regardez, Martha maintenant joue un peu, mais enfin, elle, vous savez très bien, vous l'avez très bien su, deviné, même, vous l'avez, elle vous le dit, elle a peur des concerts, oui. Au dernier moment, on lui demande de jouer du violoncelle, elle a perdu un soulier, tout ça c'est très cruel, on ne peut pas vraiment bien jouer en concert avec des gens, les vibrations ne sont pas forcément les bonnes, enfin vous voyez tout ça. Tandis que là, dans l'écoute, quand on joue pour le musicien qu'on joue, c'est-à-dire pour soi-même à ce point, alors ça fait des chefs-d'œuvre. Les Gould, vous savez, moi je les écoute comme ça en boucle, quand je suis un peu fatigué, ça me remet immédiatement dans la vérité.
J'aimerais vous entendre parler un tout petit peu, Philippe Solers, de Saint-Simon. Je sais que pour votre dernier livre, Un vrai roman, vous avez gagné le prix Saint-Simon et avez dit au moment où vous l'avez reçu que, et je suis sûr que c'est sincère, que c'est le prix qui vous fait le plus plaisir, dont vous rêviez.
Mais écoutez, Saint-Simon, à mon avis, c'est le plus grand des écrivains français. Je suis pas le seul à l'avoir dit. Zadal, vous savez, Zadal est là, de même qu'il dit que Bordeaux est la plus belle ville de France, il a raison. Et Saint-Simon a été ma seule passion durable avec les épinards, il dit ça avec les épaules. Saint-Simon, bien sûr, la prose la plus flambante. Proust, enfin, sans Saint-Simon, pas de prose, enfin, tout. Le français est bon dans les mémoires, justement, dans les mémoires. C'est ce qu'il faut lire en premier dans la littérature française, les romans à temps. On verra. Mais les mémoires, oh là là, le cardinal de Ré, Saint-Simon, Chateaubriand, etc. Vie de Henri Brûlard de Saint-Dalphe. Bon, là, c'est une façon d'être un corps, alors encore une fois, tout à fait là, concentré. Imaginez Saint-Simon écrivant à la bougie. Vous allez à la Bibliothèque nationale, vous voyez les grands portefeuilles de Saint-Simon. Ça a été publié après sa mort. Il écrit, à la lumière du Saint-Esprit, à la diable, pour l'éternité. Bon, alors, vous voyez, ça, c'est une écriture d'une légitimité. Il n'y a pratiquement pas de rature. C'est ferme. Et c'est du feu, encore une fois, la concision énergique, arrivé à son plus haut degré de rentabilité, si on peut dire, avec une mémoire. Alors, vous avez Histoire de ma vie de Monsieur Giacomo Casanova qui vient d'arriver. Voilà un manuscrit qui vient d'être acquis par la Bibliothèque nationale de France, vous savez, et puis qui est écrit en français. Je m'obstine à dire que ces mémoires de Casanova sont écrits en français et que c'est donc un des plus grands écrivains français à mettre avec Voltaire, Laclos, Saint-Simon, si vous voulez, dans la bibliothèque. Eh bien, vous avez ce manuscrit qui a enfin, après 212 ans, est arrivé en France. Il est mort en 1798. Casanova, la vie la plus extravagante qu'on a pu avoir, que quelqu'un a pu avoir comme liberté constante. Et on voit l'Europe, là, qui était quelque chose de tout à fait splendide. Ce Vénitien, a écrit en français ses mémoires. Voilà. Vous savez, j'étais là au ministère de la Culture, les manuscrits étaient là, sous vitrine, les photographes et les caméramans se mitraillaient ça, le contrat était signé à 7,5 millions. Tout à coup, le ministre de la Culture, dans une sorte d'improvisation, a dit, parce que le manuscrit venait d'Allemagne, alors de l'arrière-arrière-arrière-grand-père qui avait obtenu de garder ça, et là, le ministre de la Culture a dit, brusquement, j'étais très surpris, mais heureusement, nous avons ici l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Casanova, c'est Solers. Oh bon, non. J'ai manqué de réaction parce que j'aurais dû me lever et dire, bien alors, le chèque est pour moi.
Eh bon, on va écouter un autre Martha Argerich, si vous voulez, puisque c'est l'une de vos deux icônes. Oui. Parmi oui, oui. Vos nombreuses oui. icônes musicales, eh ben, toujours
mais
du
Bach. Mais de femmes préférées en musique.
Voilà. Toujours du Bach par Martha Argerich.
Thank you.
Voilà, Martha Argerich dans du Jean-Sébastien Bach.